la terre au ciel, sur France Culture, voyager à travers de nouveaux paysages.
À voix nue, Laurentès s'entretient avec Jean-François Revel.
Jean-François Revel, ce dernier entretien de la semaine va nous conduire, si vous le voulez bien, dans des domaines qui ne sont pas des jardins secrets, car en intellectuel impénitent que vous êtes, vous en faites toujours des traductions et des interprétations livresques, mais dans des pratiques qui sont, qui organisent et je dirais qui parfument et qui enrichissent votre vie quotidienne, qui sont les domaines de l'art entendu sous toutes sortes de formes. On ne sait pas assez, mais des rééditions ces temps derniers nous l'ont rappelé, à quel point vous avez été mêlé et partie prenante de la vie artistique de ce pays, non pas comme créateur, mais comme critique. Vous avez été critique d'art à France Observateur pendant plusieurs années, pas seulement d'art, mais aussi d'art, dans des revues spécialisées également. Et j'aimerais vous demander deux choses. D'abord, est-ce qu'on peut être un critique d'art sans être un praticien de l'art, ou est-ce qu'il est même recommandé de n'être pas l'un pour être l'autre? Et d'autre part, la fonction de critique d'art consiste-t-elle à décrire ou à expliquer?
Alors, d'abord, j'ai été au fond assez peu critique d'art, si on entend par critique d'art celui qui parle uniquement de l'art contemporain, qui rencontre des expositions nouvelles, des peintres qui émergent, ou des sculpteurs, etc. J'ai surtout fait de l'histoire de l'art. Bien entendu, certains de mes articles d'histoire de l'art portent aussi sur l'art contemporain, bon, sur des artistes contemporains, mais toujours avec une certaine intention plutôt d'offrir une synthèse d'une certaine question que d'accompagner. Le critique d'art actif, c'est celui qui accompagne un certain mouvement pictural ou architectural, qui presque un militant d'une certaine manière. Bien. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai été nommé en Italie, j'ai découvert, j'avais toujours beaucoup aimé la peinture, mais j'ai découvert que j'avais eu une certaine façon un peu superficielle, impressionniste, disons, de goûter la peinture, en pensant qu'il suffisait de regarder les tableaux pour comprendre, et je me suis rendu compte que chaque école, chaque époque, chaque pays avait... disons, obéissez à un certain code. Vous ne pouvez pas regarder un tableau de la Renaissance italienne comme une fresque médiévale ou un tableau impressionniste. L'œil ne suffit pas, il faut aussi la connaissance.
C'est le titre d'un recueil d'articles, voilà. L'œil et la connaissance, qui est paru il y a 3 ans.
Et que, contrairement à ce que on avait tendance à penser, le fait de, par exemple, d'être au courant de la signification iconographique qu'avaient pour certains grands artistes certains sujets. Je pense par exemple à la naissance de Vénus de Botticelli ou au printemps. C'est un message à déchiffrer. Alors, il y a l'aspect formel, mais vous goûtez encore mieux l'aspect formel si, au fond, vous êtes capable de comprendre ce que veut transmettre l'artiste à travers cette forme.
Pour vous, le sentiment n'est jamais complet si l'explication ne l'accompagne pas.
Je dirais que pour certaines écoles, c'est particulièrement vrai, parce que il y a certaines en peinture ou en sculpture, il y a des écoles qui sont particulièrement, disons, imprégnées de thématiques déterminées, mythologiques ou religieuses ou patriotiques, historiques, héroïques, etc. De même pour l'architecture, bon, il est certain qu'on peut difficilement comprendre les grands architectes italiens, Bramante ou autres, si on ne voit pas qu'ils ont étudié tous les grands architectes de l'Antiquité, qu'il y a une continuité. Tout cela donc fait que quand j'étais en Italie, donc j'ai beaucoup lu sur l'art, que j'ai beaucoup écouté les grands maîtres du moment, en particulier Roberto Longhi, Et que quand je suis rentré en France, j'ai eu l'occasion là, de collaborer à deux revues d'art qui ont été d'abord Connaissance des Arts et puis surtout L'Œil ensuite, qui était dirigé par mon ami Georges Bernier, qui est disparu il y a quelques mois, et qui était un homme d'une extraordinaire culture et dans tous les domaines du reste, et avec lequel j'ai eu un très grand plaisir à travailler pendant plusieurs années. Et là, si vous voulez, j'ai surtout tenté de présenter certains points de vue. Par exemple, un article que j'ai écrit sur l'origine de la caricature. Ça n'avait jamais été fait. Ce que c'est que vraiment que la caricature, c'est le portrait chargé. C'est pas seulement le dessin humoristique, si vous voulez, c'est toujours la caricature, c'est la caricature de quelqu'un. Et c'est né en Italie au XVIIe siècle, dans un milieu bien déterminé. C'est un phénomène intéressant. Par exemple, on parle beaucoup du le maniérisme. Une école qu'on introduit entre l'école, disons, de la haute Renaissance et le baroque. Mais au fond, on n'en avait jamais véritablement compris le sens. Parce que le mot maniérisme même est une invention du XXe siècle, n'est-ce pas, qui est rétrospective. Et d'autre part, c'est une période qu'on méprisait un peu, parce que certains, comme Bernard Berenson, considéraient que c'était déjà la décadence de l'art italien, et d'autres, les amateurs du baroque, pensaient que c'était juste une sorte de petit préambule. Or, c'est tout à fait différent du classique de la Renaissance et du baroque. Alors, c'était intéressant de présenter cela et de tenter de l'écrire clairement pour un public cultivé, mais assez vaste quand même, de façon, là encore, à faire sortir l'histoire de l'art un peu de la confidentialité, comme j'avais tenté de faire sortir aussi la philosophie de la confidentialité.
Justement, ce rapprochement me venait aussi à l'esprit en vous écoutant. Lors de notre première rencontre, vous nous avez dit que, au fond, la philosophie traditionnelle avait épuisé son rôle historique. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que l'art, notamment l'art pictural, ou la sculpture, l'art plastique, tel que nous pouvons le voir dans des expositions, est arrivé à un point de dissolution tel qu'il devient ou inutile ou inintelligible?
Il est certain que depuis 20 ou 25 ans, ou 30 ans même, ce qu'on expose sous forme d'art, si on l'appelle encore art d'ailleurs, je ne sais pas si le mot est encore accepté par les critiques les plus branchées, mais n'a plus rien à voir avec la tradition qui, depuis les Grecs, était la tradition des arts plastiques, qu'ils fussent picturaux ou en sculpture. Il y a là effectivement une évolution dont il faut attendre les dévoilements futurs, mais dont j'avoue que personnellement j'ai une certaine difficulté à suivre et à saisir toute la signification. Je ne suis pas absolument contre, mais disons que je me suis beaucoup moins tenu au courant au cours de cette période récente. Mais il est possible que nous soyons arrivés à la fin d'un cycle. Ce n'est pas impossible, comme en musique d'ailleurs.
Est-ce qu'on ne l'a pas dit lors de tous les grands tournants? Est-ce que quand Delacroix est arrivé, on n'a pas dit que cette utilisation de la couleur par rapport à Monsieur Ingres était quelque chose qui faisait que l'art entrait en... Est-ce qu'on l'a pas dit aussi pour les premiers cubistes?
Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les discussions ou polémiques ou même excommunications qui pouvaient exister entre diverses écoles, comme les combats des impressionnistes contre les néoclassiques, avec quand même l'abandon du support même, des supports même qui avaient toujours été ceux de l'art jusqu'alors. Le fait d'exposer comme des œuvres d'art des paires de chaussures, des cailloux, etc. Ce qui est d'ailleurs un peu une continuation de Marcel Duchamp avec le porte-bouteille ou des choses comme ça. Là, nous sortons de quelque chose et sans aucun terme polémique d'ailleurs, mais je constate, si vous voulez, qu'il y a eu une rupture plus importante. Du reste, Delacroix si révolutionnaire fut-il, se réclamait toujours des grands peintres classiques, n'est-ce pas? Il avait une grande culte, une grande admiration pour Rubens, pour tous les peintres du XVIIe siècle et d'autres. Il y avait, même quand il y avait une réaction contre la tradition ou une volonté de créer une nouvelle tradition, on s'inscrivait néanmoins dans le passé. Bon, le critique d'art type du 19e siècle, c'est évidemment Charles Baudelaire. Et Charles Baudelaire parle aussi bien des grands peintres espagnols ou flamands ou hollandais du 17e siècle que de la peinture contemporaine, qu'il s'agisse de Delacroix ou de Daumier ou de Constantin Guis. Donc, je crois quand même que nous sommes arrivés à un tournant plus important. Vous voyez, encore à l'époque de l'art abstrait, disons en gros les années de l'après-guerre jusque vers 1965, tous les grands peintres abstraits étaient des peintres qui se réclamaient d'une tradition picturale. Un Pierre Soulages, et grand connaisseur de toute la peinture, toute l'histoire de la peinture, grand amateur des tableaux du passé, et il a le sentiment avec l'art abstrait, il a le sentiment de dégager une certaine signification qui était implicite dans les périodes précédentes, mais qui existait. Aujourd'hui, je n'ai pas cette impression.
Alors, il est un second domaine qui relève lui aussi de l'art, auquel vous avez rendu ou ajouté des lettres de noblesse par ce que je tiens pour un de vos plus beaux livres, qui est Le Festin en parole. Ce domaine, c'est celui que vous appellerez, vous me direz si le terme est juste, soit la gastronomie, soit l'art culinaire, qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est un goût qui vous vient de Marseille, où les saveurs sont grandes? Qu'est-ce qui vous a attiré vers la cuisine? Vos voyages aussi?
Oui, c'est-à-dire, effectivement, bon, disons que tout Français a une certaine vénération pour l'art culinaire.
Oui, mais vous êtes plus que ça, car vos seuls engagements et embrigadements, c'est dans des clubs gastronomiques.
Un club, en tout cas, un ou deux. Mais ça, c'est plus récent. Non, si vous voulez, ce qui... comme tous les... Encore une fois, comme beaucoup de Français ou d'Italiens ou d'Espagnols, enfin, a toujours eu une mère ou une grand-mère qui faisait bien la cuisine, ou des tantes qui étaient des virtuoses de la bouillabaisse ou du cassoulet. Bon, mais en général, ce sont des pays de bonne chère. Bon, ou par conséquent, il y a toute une tradition, et même dans la littérature, on en parle beaucoup. On a pu écrire des tas de livres sur Balzac à table ou Zola à table. Ça, les repas chez Zola, ça tient une place considérable, n'est-ce pas? Et alors, ça, là encore, c'est un petit peu mon comparatisme qui m'a conduit. Ayant vécu dans des pays étrangers, j'ai d'abord constaté que chaque pays considérait que sa propre cuisine était la meilleure du monde, et ensuite essayer de voir quelles étaient les différences, les traditions. Et ce qui m'a amusé quand j'ai songé à ce livre sur l'histoire de la sensibilité gastronomique, c'est de chercher cette histoire, non pas tant dans les livres de cuisine, un peu dans les livres de cuisine, mais dans les livres qui ne traitaient pas de cuisine, c'est-à-dire les mémoires, les correspondances, les romans, même les œuvres dramatiques, c'est-à-dire les témoignages les plus fiables sur la cuisine d'un pays ou d'une époque sont ceux où les gens n'ont pas l'intention expressément de parler de cuisine. Parce que quand vous lisez les livres des grands chefs cuisiniers de tous les temps, évidemment, ils font un peu leur propre propagande. C'est un peu comme... ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment on se nourrissait à telle époque, on le voit mieux dans des livres dont l'objet principal n'est pas de décrire ça, où on décrit en quelque sorte accidentellement un repas ou une première communion ou un mariage, une batteuse, comme on disait dans les campagnes, les jours où on battait le blé et où on servait abondamment à manger. Alors voilà, ça m'a amusé de relire un certain nombre de textes grecs, latins, du Moyen-Âge, etc., jusqu'à l'époque moderne, jusqu'au 19e et un peu au 20e, pour voir quelle était l'évolution de la cuisine, quelle était aussi la circulation des diverses cuisines. Là, il y a une internationalisation des cuisines. Et aujourd'hui, plus que jamais, quand on entend les antimondialistes nous dire que c'est effrayant, tout s'uniformise, bientôt il n'y aura plus que des McDonald's partout, c'est tout simplement entièrement faux. Quand je vivais en Italie pendant les années 50, il n'y avait pas un seul restaurant de cuisine étrangère. Bon. Maintenant, vous trouvez tout ce que vous voulez comme restaurant chinois, français, etc. Quand vous allez à Stockholm, aujourd'hui, vous trouvez tout ce que vous voulez comme charcuterie italienne, fromage français, vin chilien, et produits de... Au contraire, il n'y a jamais eu autant de diversification, autant de internationalisation de la cuisine, autant de restaurants étrangers. Dans une ville comme New York, par exemple, 70% des restaurants sont des restaurants de cuisine étrangère et pas américaine. McDonald's n'existe pas à côté qu'aujourd'hui. Donc la communication entre les nations, c'est ça qui était extrêmement passionnant pour moi à étudier, et en même temps c'est une sorte de sociologie.
Oui, mais dans votre existence, vous n'êtes pas seulement un théoricien qui, par quelques livres, quelques articles, dégageait quelques grandes lois ou traditions de cet art si important. Vous êtes un praticien, non pas un cuisinier, même si je crois vous connaissez quelques recettes et avez un petit tour de main, mais vous êtes quelqu'un pour qui cette activité nécessaire à la vie prend une dimension importante. Il n'est presque pas de journée qui ne soit l'occasion de dégustation, de découverte. Est-ce que c'est un simple plaisir physique dont, en intellectuel impénitent, vous donnez l'interprétation intellectuelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui a pour vous une portée sociale ou affective encore plus grande? Est-ce que, par exemple, vous pouvez faire un bon repas tout seul?
Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'aime faire un bon repas qu'avec des amis. Mais très souvent, au contraire, quand je suis seul, j'en profite pour ne pas déjeuner, ce qui peut être très, tout à fait nécessaire quelquefois. Mais si vous voulez, il est vrai, on ne peut pas dissocier les deux choses. À la fois la qualité d'un mets et le fait de le savourer en compagnie d'un ou plusieurs amis c'est une occasion de les voir, de parler avec eux, plus agréable peut-être que si on le faisait dans un bureau, c'est tout. D'ailleurs, le déjeuner en France, que ce soit le déjeuner d'affaires ou le déjeuner littéraire, est une tradition. Mais aussi, il y a une curiosité pour l'immense variété de tous les produits dans le monde entier. Bon, il est évident que la charcuterie espagnole, le jambon ibérique, etc., ne sont pas tous les mêmes que les jambons de montagne français ou le jambon de Parme italien, qui est encore une autre technique. Enfin, tout ça est après tout, c'est amusant à suivre et c'est savoureux à essayer.
Si on voulait, au terme de ce dernier entretien, faire une sorte de synthèse provisoire à la fois de votre parcours et de votre personnalité, est-ce que vous mettriez, pour tout ce qui vous est arrivé, vous mettriez le poids du côté du hasard ou de la nécessité? Quel est votre type de déterminisme? Au fond, cette vie comme une fête, pour reprendre un titre de Marcel Jouandeau qui avait été publié chez Pauvert d'ailleurs et pas Jean-Jacques Pauvert, est-ce que c'est au fond une chance? Est-ce que vous êtes quelqu'un de chanceux, ou est-ce qu'il y a dans tout cela une part de volonté personnelle qui vous a mené, comme je disais en commençant, jusqu'à l'Académie française, qui n'est qu'un plaisir parmi d'autres?
Non, il y a une grande part de volonté personnelle. Ce n'est pas tellement le hasard, si vous voulez. Il y a quand même peut-être ce que j'appellerais une sorte d'infirmité, qui est que je ne peux pas rester sans travailler, que j'ai des remords épouvantables dès que je ne travaille pas, et aussi que les sujets de m'exprimer, les raisons de m'exprimer me sollicitent sans arrêt, vous comprenez, puisque c'est cette espèce de mécanisme dont je parlais, où sans arrêt je constate et tiens, on a dit ça de ceci, ou on a interprété tel phénomène de telle manière, mais ça ne colle pas pour telle et telle raison, et donc j'éprouve le besoin de le dire. Alors, effectivement, il y a toujours un peu une part de hasard Mais est-ce que le hasard auquel on s'expose n'est pas un peu le résultat d'un déterminisme intérieur? Parce qu'il y a des hasards qu'on aurait pu saisir et à côté desquels on est passé avec la plus complète indifférence.
Alors, est-ce que vous diriez, pour conclure cette semaine d'entretien, que le jour qui se produira nécessairement, mais qui n'est peut-être pas pour demain, le jour où vous quitterez ce monde, vous aurez le sentiment de le quitter meilleur, et vous-même peut-être meilleur, que celui que vous avez trouvé en débutant dans la vie?
Provisoirement, oui, meilleur. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura des rechutes dans l'avenir, mais il est certain que quand on a vécu au XXe siècle, qui a été le siècle des guerres, des exterminations, des totalitarismes, des persécutions, actuellement, en l'an 2002, on trouve que c'est plutôt moins mal. Il y a encore de très grands dangers. Il y a le fanatisme terroriste qui inquiète la planète entière à l'heure actuelle, et à propos duquel, d'ailleurs, là encore, les interprétations fausses ne cessent de s'accumuler.
Et dont vous parlez dans votre dernier ouvrage,
oui,
L'obsession anti-américaine.
C'est cela.
Mais, malgré tout,
ça va moins mal. Malgré tout, l'Europe tout entière à peu près est redevenue démocratique, libre, culturellement. On peut penser aussi que l'Asie est en train d'évoluer dans cette direction. Il y a encore le gros morceau de la Chine, enfin, qui évolue de plus en plus vers le capitalisme, mais s'efforce de conserver le système politique totalitaire. Je ne sais pas si elle y parviendra longtemps. Mais actuellement, on peut dire au fond que ceux qui ont combattu pour la liberté au XXe siècle ont plus ou moins aujourd'hui un peu amélioré la situation.
Et parmi ces combattants de la liberté, permettez-moi de le dire, parce que vous ne le diriez pas vous-même, vous figurez, Jean-François Revel, à une place qui n'est pas petite.
Merci.
C'était À Voix Nue. Laurent Hess s'entretenait avec Jean-François Revel.